Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero au micro pour vous présenter cette édition d'Escale. Cette semaine, nous recevons Munja Al-Sawahi dans nos studios. Elle fait partie du groupe d'élite religieux du Fonds des Nations Unies pour la Population qui œuvre depuis 10 ans à faire tomber les tabous autour de la santé reproductive et sexuelle dans les contextes religieux. Détentrice d'un doctorat en études coraniques et sciences islamiques depuis 30 ans de l'université Zaytouna en Tunisie, elle reviendra également sur la liberté de la femme dans le Coran et démentira l'idée reçue que l'islam opprime la femme. Bonne écoute. Docteur Munja Al-Sawahi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accorder cet entretien à la radio des Nations Unies. Merci de venir dans nos studios.
Merci à vous.
Vous êtes aux Nations Unies pour une réunion de 2 jours qui tourne autour de la foi, de la religion et de la santé sexuelle et reproductive. Alors, quel est l'objectif de cette réunion ?
L'objectif de cette réunion, c'est qu'il faut parler aux jeunes, il faut parler aux femmes, aux hommes, pour protéger leur santé sexuelle. C'est une propagande vide lorsqu'on dit que les religions ne parlent pas de la santé reproductive. Par exemple, dans l'islam, on parle de ça. Il faut parler de ça parce que, vous savez, maintenant, le sida est dans tout le monde. Il y a beaucoup de, surtout les femmes, 50 femmes par jour affectées par le sida. Donc, il faut une culture de la santé, de la productivité. Malheureusement, dans les pays arabes, dans le monde arabo-musulman, il y a encore beaucoup d'ignorance autour de ce sujet. Aussi, pour les objectifs de développement des Nations Unies après 2015, on a vu qu'on a beaucoup travaillé pour diminuer le sida, mais il y a encore. Nos jeunes aujourd'hui, nos populations ont besoin d'être protégées. Aussi, d'autres choses qu'on a vues, c'est la pauvreté, c'est le chômage, c'est ceux qui n'ont pas de famille, ils sont bien attaqués avec le sida et avec les maladies sexuelles. Pour les religieux, c'est un plaisir. Pourquoi ? Parce qu'on considère les religions, c'est pour le bien de l'homme. Lorsque je dis l'homme, c'est avec un grand H. Femme, homme, fille et garçon.
Alors justement, il y a plus de 40 personnes, de leaders de 6 différentes fois qui participent à cette réunion ?
Oui, oui. Oui. Des musulmans, des chrétiens, le bouddhisme, il y a beaucoup de leaders religieux.
Oui. Et de différents pays.
De différents pays, oui.
Et est-ce que tous s'accordent sur cette même façon d'aborder la santé sexuelle et reproductive ?
Heureusement, ils s'accordent sur la santé reproductive parce qu'on a travaillé depuis 10 ans, on a travaillé jusqu'à arriver à avoir une élite des leaders religieux qui travaillent pour le profit de l'homme. Ils abordent la sexualité reproductive, ils abordent la violence contre les femmes, ils abordent les problèmes qui étaient tabous avant.
Alors, quel est le lien entre santé reproductive et sexuelle et religion ? Et est-ce qu'on peut aborder un peu ces contentieux qu'on a vus dans le passé ?
Il y a une grande liaison parce que l'homme est respecté dans les religions, dans toutes les religions. Le profit de l'âme est respecté, la santé de l'âme est respectée, la vie conjugale est respectée dans toutes les religions, sans exception. Donc, il n'est plus temps de ne pas parler de ces sujets. Vous savez que le monde bouge, que le monde change, que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les jeunes de 50 ans. Donc, il faut savoir comment guider ces jeunes, comment les donner les renseignements justes.
Alors justement, quels sont les moyens et les messages que vous prenez face, par exemple, au sida ou à la mutilation féminine génitale ?
Par exemple, au sida, lorsqu'on passe des messages, il faut se protéger, il faut se protéger, il faut se marier, il ne faut pas beaucoup de partenaires. Mais si, pour la religion, si vous avez des relations sexuelles hors le mariage, au moins les préservatifs, oui, au moins. Utilisez les préservatifs. pour se protéger, au moins. Parce que la vie de l'homme, la vie de la fille, la vie de la femme est plus chère que faire la relation sexuelle ou ne pas le faire.
Mais justement, l'utilisation de préservatifs a été un contentieux parmi plusieurs religions, en fait, même par rapport aux questions d'hygiène, parce que ça touche aussi à la contraception, quelque part.
Mais lorsque la vie est attaquée, on ne peut pas dire aux gens, non, n'utilisez pas le préservatif. Non. Dieu ne veut pas que nos jeunes meurent avec le sida ou avec la violence ou avec autre chose. C'est ça que je le crois et les autres leaders le croient aussi.
Non, c'est intéressant de voir l'évolution aussi, oh, oui, parce que pendant une bonne décennie, c'était très compliqué.
Oui, c'est trop compliqué. C'était trop compliqué et on ne peut pas parler même de préservatif. Mais aujourd'hui, il faut parler.
C'est parmi les catholiques aussi ?
Oui, parmi les catholiques aussi. C'est pas tout le monde, mais au moins nous, au moins ces leaders que nous sommes aujourd'hui là, nous avons cette vision.
Alors vous êtes aussi experte et docteur en études coraniques et islamiques.
Yes, yes, oui.
Que répondez-vous à ceux qui accusent l'islam d'intolérance envers les autres religions et notamment d'oppression envers la femme ?
C'est pas vrai. Moi, je suis professeure à l'université Zitoun d'exégèse coranique et sciences islamiques depuis 30 ans. J'ai travaillé, j'ai écrit 7 livres, j'ai écrit Interprétation féminine de l'islam. Ce n'est pas les textes coraniques ni les hadiths du prophète, les paroles du prophète. Ce sont les interprétations des hommes. Pendant des siècles, ils dénigrent la femme, ils tournent autour des versets coraniques, mais quand on revient au Coran, on trouve la femme est libre, la femme est libre, la femme a tous les droits politiques, économiques, sociaux, elle a le droit de se marier de l'homme qu'elle veut et refuse. Il ne faut jamais pratiquer la violence contre les femmes. Aussi, pour le dialogue interreligieux, j'ai écrit un livre, Humanisme, dialogue entre les religions et entre les civilisations. L'islam respecte le judaïsme, respecte le christianisme. Toutes les prophètes avant le prophète Mohammed sont respectés. Et nous, musulmans, nous devons croire aux autres prophètes. Moïse, toutes les prophètes, nous sommes obligés. Nous respectons la Sainte Marie, nous la respectons beaucoup, beaucoup. C'est une grande femme dans l'islam. Mais malheureusement, il y a des musulmans qui ne savent pas lire le Coran et il y a d'autres qui suivent leur cheikh. Ce qui est le cheikh, c'est le vrai, alors que dans l'islam, il faut lire les textes du Coran, les textes du hadith, et il faut savoir les interpréter au profit de l'âme, au profit de la femme, parce qu'on n'a plus besoin de ces guerres, besoin de ces violences qu'on vit aujourd'hui et qu'on le voit, et c'est malheureux, malheureusement, au nom des religions, au nom des cultures.
Parce qu'on en arrive à un point où l'islam est associé avec djihad.
Oui, oui, oui. C'est ça le malheur aujourd'hui. Et ce que nous voyons aujourd'hui, il n'a aucun argument dans l'islam, dans le Coran.
Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui alors ?
Je ne trouve aucune explication. Parce que moi, je vis avec les textes coraniques, je vis avec le hadith, je vis avec beaucoup d'interprétations. Mais je ne sais pas d'où, comment on peut égorger quelqu'un, on peut faire sortir des chrétiens de leur maison.
On voit des comportements aussi contradictoires, par exemple, quand on voit qu'on prône la pureté, d'une part, et d'autre part, qu'on garde des femmes et des enfants en esclavage sexuel aussi.
C'est la contradiction. Dans l'islam, la femme, la fille, le bébé, il est de naissance libre. Et tu ne peux pas obliger une femme à pratiquer le sexe avec un homme. Ce n'est pas ton droit. Ce sont des paroles des prophètes.
Même par rapport à sa femme ?
Oui. Tu sais pourquoi même par rapport à sa femme ? Parce que dans le Coran, il parle comment pratiquer le sexe avec sa femme. Il faut qu'elle soit heureuse, qu'elle accepte la relation sexuelle. Il faut qu'elle l'accepte. Si elle n'accepte pas, c'est comme un animal. Le prophète dit, il ne faut jamais insulter votre femme ou le frapper pour aller dormir avec elle. Elle est un être humain, elle n'est pas un animal. C'est un texte qu'il dit le prophète.
Que dites-vous en fait par rapport à toutes ces critiques qui se font par rapport au fait que les femmes sont censées se couvrir ? Il y a toute une polémique et des différences culturelles, etc. Et qui rentrent dans ce discours d'oppression de la femme.
Moi, je dis, c'est la liberté. l'essentiel, qu'on se respecte. Moi, je mets quelque chose sur ma tête. Je vous respecte, je ne dis pas que cette madame qui ne porte pas le voile, c'est une athée. Non, non. Et toi, tu me respectes. Il ne faut pas dire que je suis des anciens siècles, je ne sais pas, je ne dois pas être dans cette société. Non, tout se passe là. C'est le respect entre les femmes, entre les sociétés. Parce que je vois que c'est un problème faux. C'est un faux problème. On laisse les problèmes économiques, on laisse la violence contre les femmes, on laisse beaucoup de problèmes quand on souffre que femmes, que hommes, que enfants. Et on parle de la voile, on parle de je sais pas quoi. Laissez que chacun porte ce qu'il veut. Par exemple, moi, si je vois une fille porte le micro, c'est pas mon problème. Elle choisit. Ce sont des choses intimes, ce sont des choses qui la concernent ou qui le concernent, ni moins ni plus.
Il y a un lien qui est souvent fait entre mutilation féminine génitale et tradition musulmane.
Moi, j'ai écrit un article que l'excision est une habitude pharaonienne et non islamique. Parce que vous trouvez des chrétiens en Syrie qui excisent leurs filles, c'est une habitude. Mais dans l'islam, il n'a aucun texte qui permet l'excision des femmes. Le prophète n'a pas excisé ses filles ni ses femmes. Aujourd'hui, au Saoudi, il n'existe pas l'excision. Ça se trouve en Égypte, au Soudan, mais pas au Saoudi, ni dans la Mecque, ni dans la Médine. Ce sont des habitudes qu'on doit stopper. Les femmes en souffrent. Les femmes en souffrent. C'est une violence vraiment atroce. Il y a des femmes qui enlèvent toute l'appareil génital.
Est-ce que vous avez un dernier message avant de nous quitter?
Je veux s'adresser aux Nations Unies. Faites ce que vous pouvez pour stopper cette violence dans le monde arabe, cette violence contre les femmes, cette violence où on voit des femmes qui se font. Ils vendent des femmes avec de l'argent. C'est malheureux. Je l'ai vu. C'est malheureux. Vraiment, c'est malheureux. Stopper cette violence dans tout le monde. Et vous pouvez, les Nations Unies peuvent faire quelque chose. Par exemple, encourager toutes les idées modernes dans les religions qui entourent l'homme, qui respectent l'homme, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le judaïsme, que ce soit dans le christianisme, même dans le bouddhisme.
On parle de l'homme avec un H.
De l'homme avec un H, oui. L'homme et la femme. Il faut sauver la vie des populations. Voilà. Ce que se passe en Libye et ce que passe en Syrie, je ne suis pas politicienne et je ne m'intéresse pas à la politique, mais ce qui me fait mal, c'est ce que vit la population, que ce sont des femmes, des enfants, des hommes, qui n'ont aucune relation avec la politique. Et ils paient cher leur vie et leurs filles et leurs garçons.
Et c'est avec le plaidoyer de Munjal Al-Sawahi pour ses consœurs musulmanes sous l'emprise des groupes extrémistes que se referme cette édition d'Escale. Escale, le magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies, vous a été présenté cette semaine par Christina Silvero avec la collaboration de Ndongo Atier et Florence Westergaard. Je vous rappelle que vous pouvez écouter Escale, mais aussi le journal de la Radio des Nations Unies par podcast ou sur Internet en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence.